Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec Christian Lesseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un syndiqué et en même temps enseignant dans un lycée technique au syndicat SNES. J'aimerais qu'on commence par présenter ce syndicat et puis vous-même, au passage, un petit portrait d'un syndicaliste sur notre antenne.
Donc oui, le SNES, c'est le principal syndicat du second degré, donc qui regroupe les enseignants de collège, de bac et puis de lycée post-bac. Et je suis donc prof au lycée La Martinière à Lyon, donc il y a un lycée technologique au départ et maintenant technologique et général. Et j'enseigne le génie civil. Dans un premier temps, j'ai enseigné essentiellement dans le secondaire et maintenant je travaille pratiquement exclusivement en post-bac, donc avec des élèves de BTS.
C'est de votre faute, les ponts en béton ?
Oui, je revendique. Les ponts, les routes, les réseaux, c'est ma spécialité en plus, puisque j'enseigne essentiellement en BTS travaux publics. Et un peu en BTS bâtiment également.
Ce SNES donc, est présent dans la plupart des lycées, on l'imagine. Il y a d'autres syndicats. Est-ce que vous pouvez nous faire comme ça, juste un petit tour d'horizon de l'action syndicale dans les lycées ?
Même si l'enseignement est un secteur où on est particulièrement syndiqué, bon, on reste quand même minoritaire. L'ensemble des syndiqués au niveau de l'éducation nationale, ça doit représenter à peu près 20%. Au mieux. Le SNES est le principal syndicat du second degré. On a d'autres syndicats avec qui on travaille régulièrement, que ce soit la CGT, avec qui on a des contacts réguliers. Sud, qui est présent également, mais qui sont des syndicats beaucoup plus minoritaires. Et puis, il y a quelques syndicats un peu plus importants. EFO est très présent dans certains lycées ponctuellement. Bon, la CFDT et puis toute une série de syndicats qui sont, eux, plus moderniste, on va dire, genre UNSA, le SNALC, pour pas dire franchement à droite, quoi.
Pourquoi cette action syndicale est si faible, j'allais dire, enfin, regarde ce que vous dites là dans l'éducation nationale.
Je pense qu'un des facteurs qui fait qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à mobiliser, eh ben, c'est un peu le bilan des actions passées. L'échec de la mobilisation contre la loi Châtel qui n'a pas abouti. Et on a à l'heure actuelle un certain découragement de la part des collègues. On a beaucoup de mal à les faire bouger parce qu'ils ont l'impression que c'est un rouleau compresseur, c'est inéluctable. Oui, d'accord, c'est une catastrophe, mais on ne peut rien faire.
On va donc parler de cet enseignement éducation nationale, de ce second degré et surtout de ce qui se passe après. Christian Lesseau, avec ce syndicat SNES, hein, donc vous êtes le correspondant pour votre lycée qu'on a cité tout à l'heure. Vous questionnez, hein, mais comme beaucoup d'autres sont en train de le faire en ce moment, les différentes réformes proposées par le gouvernement Macron sur... l'avant-bac, le bac lui-même et tout ce qui va se passer après, notamment les filières d'enseignement supérieur de type universitaire. Un peu de contexte pour commencer, avec cette loi Châtel d'ailleurs qui a été citée.
Déjà, simplement factuellement, il faut savoir qu'au niveau du bac 2017, il y a à peu près 730 000 élèves qui étaient inscrits au bac, 375 000 dans le général, 141 000 sur la voie technologique et 216 000 sur la voie pro. Sur la voie générale, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a pratiquement 200 000 élèves qui ont passé le bac S. Ce qui fait dire qu'il y a plus de la moitié des élèves qui passent un bac général à l'heure actuelle. Et sur la moitié des élèves qui passent le bac général, il y a plus de la moitié qui passent un bac S. Donc il y a plus de 25% des élèves qui, à l'heure actuelle, sont sur le bac S. Sur la réforme Châtel, alors pourquoi c'est important de dire deux mots, c'est qu'on va retrouver beaucoup d'éléments de la loi Châtel dans ce qui nous attend avec la réforme du lycée et la réforme du bac. La loi Châtel, elle date de 2010 et elle était bâtie autour de trois axes principaux. Le renforcement de l'autonomie des établissements. Alors ça, concrètement, c'est sur la gestion des heures, puisque chaque établissement se voit doté d'une enveloppe d'heures de dédoublement. Et c'est à l'établissement de gérer ces dédoublements. Donc ça peut se faire en basculant des heures de dédoublement sur certains niveaux par rapport à d'autres ou sur certaines classes par rapport à d'autres. Là, c'est totalement la responsabilité de l'établissement. Le deuxième aspect, c'est l'introduction du contrôle continu. Alors, ça s'est fait essentiellement en langue vivante, où maintenant, les épreuves sont des contrôles en cours de formation. Ce n'est pas exactement du contrôle continu, parce que ce sont des épreuves ponctuelles qui sont réalisées, mais c'est fait dans l'établissement, sur des sujets élaborés par l'établissement et corrigés par les collègues de l'établissement et principalement par les collègues qui ont les élèves.
Est-ce qu'on peut faire une petite pause juste sur ce contrôle continu, parce que qu'est-ce que ça crée comme situation, notamment sur la valeur même qu'on pouvait porter au bac et à son niveau de référence pour la suite ?
Alors, ça change déjà le rapport entre l'élève et le prof, parce que là, les enjeux, on les voit déjà au niveau de certains établissements où on a des pressions de la part des parents d'élèves, mais aussi de la hiérarchie, pour nous dire, bah attention, hein, si vous voulez garder votre matière, faut pas être trop méchant, parce que les gens vont plus venir. Ça, c'est un premier enjeu. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a pas un contrôle national, les épreuves, elles sont maison, quoi. Donc, à partir de là, l'évaluation que peut en avoir l'institution à l'extérieur, elle dépend également de l'appréhension que l'institution a de l'établissement.
Donc on détruit le diplôme d'État qu'est le bac en tant que diplôme égalitaire pour l'ensemble de la population qui met tout le monde à peu près au même niveau par cette pratique-là.
Là, c'est assez clair. Et ça le sera encore plus dans la réforme qui va nous attendre, parce que justement le contrôle continu est encore élargi.
Bon. Et le troisième point ?
Et le troisième point, moi ça me touche un peu parce que je suis prof de la voie technologique depuis... très longtemps, et ça a été la suppression de la filière technologique telle qu'elle était, et son intégration partielle, mais plus que partielle, en tant que filière générale, avec la suppression, ou en tout cas la marginalisation de tout ce qui était enseignement spécialisé, au profit d'une matière qui était appelée enseignement technique transversal, qui se voulait chapeauter un peu tout. Et donc là, il y avait une première volonté de réduire cette filière voie technologique. Alors moi, je suis en technologie industrielle, donc c'est particulier, mais c'est un peu le cas également pour le tertiaire avec les STMG et le médico-social, où là également, on a eu une sorte de généralisation de ces filières.
Donc on passe la même chose qu'on parte dans une filière technologique ou dans une filière médico-sociale ?
C'est pas exactement ça. Ce qui veut dire, c'est la structure des cours. C'est-à-dire qu'on a diminué les spécialisations et on est sur des bacs qui sont très généralistes, avec la volonté d'en faire vraiment des bacs généraux. Autant qu'un bac S ou un bac L, il y a maintenant un bac STI, un bac STMG, donc tertiaire, et un bac STS. Et avec des horaires qui sont assez proches et en restant très, très généraliste, en rentrant très peu dans le métier, quoi, en quelque sorte.
Donc, perte de technique. J'entendais sur l'introduction que vous avez fait tout à l'heure aussi un certain nombre de chiffres. Et évidemment, on l'entend tout de suite, une disparité entre les filières scientifiques et les filières autres, puisque 50% de ces bacheliers sont dans des filières scientifiques. Oui. Donc, sur les filières technologiques, c'est sans doute encore pire. Ce déséquilibre donc est bien visible. Est-ce que cette réforme Châtel ou celle qu'on va maintenant décrire viennent aussi s'attaquer à ce problème-là de déséquilibre ou pas du tout?
On aura l'occasion d'en revenir sur la réforme du bac, mais il y a la disparition totale de la voie technologique. Et là, c'est affirmé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de voie technologique.
Et littéraire, ce qui est... pas beaucoup non plus, en fait. Hein.
Alors, je suis... ce que je pense, franchement, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des pistes qui nous sont évoquées où il y aurait des filières littéraires. Le problème, il va être celui qui est à l'heure actuelle, c'est que c'est le choix des élèves, mais surtout le choix des parents, qui va faire que certaines filières vont être valorisées et d'autres marginalisées. Au niveau littéraire, apparemment, on va vers 3-4 bacs littéraires, entre guillemets. Après, il faut voir comment ils vont vivre. Hein. À l'heure actuelle, on peut dire que la série L existe. On ne peut pas le nier. Maintenant, les conditions dans lesquelles elle vit, elles dépendent énormément des établissements. Il y a des établissements de prestige sur lesquels les filières L sont des filières qui marchent. Et puis, il y a quelques lycées dans lesquels la filière L, c'est la voie de garage pour ceux qu'on ne peut pas mettre ailleurs. De la même façon, dans mon lycée, et puis dans les lycées où les filières STI existent, c'est souvent une voie de garage, de la même façon que la STMG est une voie pour les élèves qui n'ont pas pu trouver de place ailleurs.
On en revient à cette réforme, Christian. Il y a vraiment deux volets importants. Donc, il y a toute cette partie qui précède le bac ou qui constitue le bac en lui-même. Et puis, cette réforme de la partie universitaire.
Voilà.
Alors, on décrit d'abord celle du bac.
L'inverse. Je pense que c'est plus important. Alors, d'une part, chronologiquement, elle intervient avant. Puisque oui. elle a débuté grosso modo au mois de juin et que elle est déjà en place pour la poursuite d'études.
Envers et contre toute loi.
Envers, on verra ça par la suite. Et puis parce que elle a des conséquences énormes sur la réforme du lycée. La réforme du lycée est en grande partie conditionnée par la réforme du premier cycle universitaire. Donc cette réforme du premier cycle universitaire qui est nommée réforme Vidal. Ou dont l'un des principaux points est Parcoursup. Ouais. Elle aborde pas mal de points au niveau du fonctionnement des facs, au niveau des liens fac-lycée. Mais je retiendrai simplement deux points essentiels sur cette réforme. C'est d'une part l'introduction des attendus pour rentrer dans une formation universitaire.
Faut décrire, hein.
Alors, les attendus, c'est ce que une filière universitaire attend comme requis pour qu'un élève puisse accéder à cette formation.
Des conditions de niveau, en général.
Voilà. Ces conditions, elles sont bornées au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a des attendus par filière qui ont été définis au niveau national, mais les facs locales peuvent améliorer, spécifier les attendus qu'elles ont des élèves. Alors, ces attendus, on a eu quelques exemples qui sont remontés. Par exemple, pour psycho, c'est avoir un très bon dossier en maths, sciences nat ou sciences physiques. Donc, ça veut dire qu'on va éliminer de fait tous les bacheliers littéraires de psycho. Ils ne pourront plus postuler en psycho. Il y a des attendus, par exemple, en droit, on demande aux jeunes de faire preuve d'empathie, ce qui est extrêmement quantifiable.
C'est vraiment un truc qu'on a appris à l'école, ça, l'empathie.
Oui,
hein.
Voilà. L'empathie. Hein. Mais ça peut être également...
J'ai 20 sur 20 en empathie.
Ça peut être également des attendus qui sont extra-universitaires. Par exemple, la plupart des STAPS, donc les filières sport, demandent que le jeune participe à une association sportive. Et certaines vont jusqu'à demander le BAFA. Le BAFA qui est une certification payante. Mm-hmm. Donc, on voit
un
les conséquences.
Un petit diplôme en plus, notamment pour être animateur en colo, par exemple.
Exactement. Alors que le BAFA, à l'heure actuelle, il se passe en fin de deuxième année de STAPS. Donc, c'est aussi une moyen d'un peu... On met un peu la charrue avant les bœufs, on leur demande d'avoir le BAFA pour pouvoir passer le BAFA, en quelque sorte. C'est le genre d'attendu qu'on peut avoir. Alors, ce qui est à noter, qui est important de voir, c'est qu'il y a eu un mouvement au niveau des facs pour essayer de de freiner sur les attendus parce qu'ils voyaient un peu le piège que ça pouvait être. Et là, la réponse a été radicale, c'est-à-dire qu'une filière qui n'a pas d'attendu n'apparaîtra pas dans le parcours Parcoursup, donc la liste des formations mise au choix des élèves.
On peut jeter mettre une fac aux oubliettes aussi, quoi.
Totalement. Qui veut pas jouer le jeu. Totalement. En tout cas une filière sans problème. Si une filière refuse de faire remonter les attendus sur Parcoursup, eh ben elle n'apparaîtra pas dans Parcoursup, donc elle n'existera pas. C'est, on en est là.
Cette question comme... des attendus, sans doute aussi pour les universités, les met dans une sorte de concurrence déloyale les unes entre les autres. Peut-être qu'elles n'ont même pas forcément envie d'aller vers ça. On connaît des universités qui sont cotées et qui maintiennent cette cote, et puis d'autres qui sont bien contentes d'être tout au même niveau.
De récupérer les élèves.
oui, peut-être de récupérer des élèves. Je veux dire, là, on va créer des universités qui se spécialisent dans tel type d'attendus, d'autres plus coulantes, etc.
Enfin, là, c'est certain que les facs qui ont une petite cote vont essayer de passer la barre la plus haute possible de façon à sélectionner leurs élèves. Ce qui est un peu... Alors là, on vient sur la deuxième partie qui est donc sur Parcoursup et donc l'affectation en post-bac. C'est vraiment le but de l'opération, hein, de mettre en concurrence les élèves. Parce qu'en fait, il y a un changement d'approche de post-bac. C'est jusqu'à présent, les élèves choisissaient une formation. Et on leur disait oui et non. Là, maintenant, c'est les facs qui vont choisir leurs élèves par rapport à un vivier général. Même si ça va pas avoir des conséquences énormes au niveau des jeunes, au niveau de la philosophie, ça change quand même pas mal les choses. Et ça risque quand même d'avoir des conséquences.
Peut-on rappeler juste comment ça se passait avant, peut-être ?
Alors justement, je voulais dire deux mots sur APB. Jusqu'à présent, un élève qui arrivait en terminale, pour sa poursuite d'études, pouvait faire une vingtaine de vœux et hiérarchisait ses vœux. C'est-à-dire, il disait, je veux par exemple faire, pour moi, génie civil à La Martinière, génie civil à Grenoble, etc., etc., et dans l'ordre. Et un élève avait une réponse. Et si la réponse était positive, tous les vœux en arrière étaient supprimés. Et donc, ça laissait la porte ouverte à des jeunes pour monter dans les listes. Ça n'a pas fonctionné à cette rentrée. Alors, ça n'a pas fonctionné, oui et non. Parce que l'échec d'APB, tel qu'il a été présenté dans la presse, il a été largement monté en épingle autour de faits un peu marginaux. Alors, les principaux éléments qui ont été mis en avant, c'est d'une part le tirage au sort. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tirage au sort a touché très peu de formations, c'est-à-dire moins d'1% des étudiants qui étaient affectés, et que ce tirage au sort, de toute façon, était illégal. C'est-à-dire que là où il y a eu des recours devant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif a ordonné la réintégration des élèves qui avaient été déboutés par le tirage au sort. Donc c'est un premier élément qui a très peu été souligné dans la presse. On a beaucoup souligné sur les tirages au sort, pas sur les réintégrations. Et puis également le fait qu'il y avait 14 000... Enfin, il y avait les bacs pro qui étaient en échec total à la fac. Or, ça touche 14 000 élèves sur 800 000 inscrits en première année. Donc c'est vraiment mais extrêmement marginal, et que y a un nombre non négligeable de ces élèves qui sont dans des filières, alors qu'on nommait les filières 15, qui est en fait des filières de remise à niveau, donc qui n'ont pas de vocation de dépasser la première AD, mais simplement de remettre à niveau le gamin pour qu'il puisse intégrer un BTS ou un DUT. Donc on a mis en épingle deux faits pour hurler à l'échec d'APB. Mais en fait, l'échec d'APB, il était prévisible depuis longtemps, parce que le problème de l'échec d'APB, il n'était pas sur le fonctionnement d'APB, pas sur l'algorithme de choix, mais il était sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de place à mettre en face des candidats bacheliers. Et ça ne va pas s'arranger l'année prochaine.
Ce qui est une des premières choses qui a été dénoncée par une partie de la classe politique, d'ailleurs, c'est de dire que ces réformes-là ne viennent pas prendre en compte l'élément premier et qui est parfaitement mesurable, qu'on connaît le nombre d'élèves et qu'on sait à quel moment ils vont arriver dans les filières bac, post-bac et parcours supérieur.
On suit les courbes démographiques, et depuis 2000, on savait qu'on allait avoir une arrivée massive d'élèves en fac dans les années 2017-2020, Et il n'y a rien qui a été fait pour améliorer l'affaire. À la rentrée prochaine sur l'Académie de Lyon, on sait qu'il y a 2400 élèves en plus qui vont arriver, qui vont être bacheliers en plus. La réponse qui est à l'heure actuelle, c'est 600 places supplémentaires en université, 130 places supplémentaires en BTS. Donc on va se retrouver avec plus de 1500 élèves en plus de l'année dernière qui vont se retrouver sans affectation, et on le sait dès aujourd'hui. Donc le nouveau système qui va se mettre en place, il ne va pas régler le problème de l'inadéquation entre le nombre de places qui sont à pourvoir et le nombre d'élèves qui arrivent.
Alors, on revient sur ce système de la sélection qui est faite directement depuis l'université, avec en plus une échéance assez courte. Hein. Là, on parle de mars, mai, juin, juillet, alors qu'effectivement, il n'y a pas de décret d'application pour cette nouvelle réforme. C'est parti quand même.
Non seulement il n'y a pas de décret d'application, mais la loi n'est pas adoptée.
Oui, ouais, en plus,
elle est toujours,
on ne peut elle surtout est, pas l'appliquer.
La navette parlementaire n'est pas finie.
Voilà.
Donc,
c'est encore mieux.
C'est encore mieux.
Alors, mieux que le 49.3 avec les ordonnances, on parle d'une loi, enfin on l'évoquerait dans un couloir, et on l'a fait quand même.
Ah mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on demande à des profs de remplir, à des fonctionnaires, donc de remplir des questionnaires qui sont illégaux, puisqu'ils n'ont aucune base légale. Alors, à titre anecdotique, hein, il faut savoir que le ministère est conscient du problème. Il a estimé à peu près à 1500 euros par recours le coût des recours que vont faire les familles. Et ils ont déjà provisionné plusieurs millions d'euros pour faire face aux demandes qui vont arriver. Donc, on en est là à l'heure actuelle. Globalement, sur cette nouvelle philosophie de l'affectation dans le premier cycle universitaire. Alors, il y a les 10 vœux, qui sont 10 vœux non hiérarchisés. Il y a le fait que l'établissement, maintenant, va remplir une fiche d'évaluation. C'était un peu le cas sur les filières sélectives. Maintenant, ça devient général. Et en particulier, là-dedans, il y a mesuré la capacité de l'élève de poursuivre une formation supérieure. Ça, c'est l'avis qui doit être rendu par le chef d'établissement sur le conseil donc des professeurs principaux qui vont être qui vont avoir un rôle central pour éclairer le chef d'établissement sur la possibilité de poursuite d'études de l'élève.
Alors ça, c'est quand même très particulier. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut alerter tout de suite les gens, c'est ça, là. Enfin, je veux dire, le professeur principal va... où ça? Dans la dernière année, on parle de... en terminale, c'est le dernier prof qui va donner un petit peu le...
Exactement, c'est un peu ça quand même. Et puis là, il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'on ne sait, pour le moment, on ne sait toujours pas si c'est un avis par formation ou un avis général. Dans le technique, nous, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps, puisqu'on avait pratiquement la plupart des poursuites d'études qu'on avait étaient sur les filières sélectives, mais on donnait notre avis.
C'était formation des recommandations.
Exactement, formation par formation.
Voilà.
Parce qu'on voyait qu'un élève, il avait plus d'aptitude sur l'abstraction, donc il avait plus sa place en IUT.
En général, d'ailleurs, c'était même l'élève qui pouvait venir demander tel ou tel type de recommandation, enfin, ou en tout cas, parce qu'il allait postuler vers tel ou tel parcours universitaire, obtenir une recommandation dans ce sens,
voilà,
dans
le
but
ça,
d'accéder justement à ce qu'il cherche.
Et puis bon, on était dans un monde quand même qui était assez restreint, tout le monde se connaissait, et bon,
ouais.
Là, on va passer sur l'ensemble des formations. Donc, il y a ces deux aspects. Troisième aspect, également, dans cette fiche à venir, quand même, parce que c'est important, dans cette fiche à venir, grosse nouveauté, enfin, plus ou moins, l'élève doit faire une lettre de motivation, formation par formation, pour vendre son parcours scolaire et être le plus attractif possible pour les facs, pour qu'il soit retenu. Alors, il faut relativiser un peu, parce que la plupart des facs ont déjà expliqué dès maintenant que, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de lire les lettres et que le seul critère qui serait retenu, ce serait les notes.
Mais c'est
quand même une piste qui va s'ouvrir de manière non négligeable. On verra par la suite sur les conséquences. Donc après, c'est comment ça va marcher. Ce Parcoursup, contrairement à la réforme des lycées, il se met en place dès cette rentrée. Donc jusqu'au 13 mars, les élèves ont la possibilité et le devoir de remplir leur fiche de vœux Donc 10 vœux avec possibilité de 10 sous-vœux, ce qui fait un total de 20 vœux à peu près, pour la poursuite d'études. À partir du 13 mars, c'est fini. C'est les enseignements supérieurs qui récupèrent les dossiers et qui examinent les dossiers. On peut supposer que pour la plupart des établissements, ça va se faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va tout mouliner les notes du premier et du deuxième semestre dans la machine et on va faire un ordre par ordre décroissant la liste des élèves qui vont être retenus. À partir du 22 mai, les réponses des facs vont arriver auprès des élèves. Alors, ces réponses peuvent être de trois types. Soit oui, tout bénef pour l'élève. Il peut avoir plusieurs oui. C'est à lui de choisir la formation dans laquelle il est retenu. Soit oui, en attente. Ça veut dire que son dossier reste gardé par la filière, mais pour le moment, il n'y a pas de place. Mais si des places se libèrent, il a des chances d'accéder à la formation. Et puis, il y a non. Ça, c'est pour les filières sélectives. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce qui se passait d'habitude. C'est-à-dire qu'un élève savait qu'il n'avait aucune chance d'accéder à la formation, point à la ligne. Soit oui, si. Oui, si. Alors ça, c'est pour les filières non sélective, c'est-à-dire la fac en quelque sorte. Et ça, c'est une nouveauté, parce que ce « oui, si », ça signifie que l'élève ne pourra accéder au supérieur que si il suit les attentes de la fac. Alors les attentes de la fac, c'est de suivre un cursus de remise à niveau pour pouvoir intégrer la filière. Sauf que d'ores et déjà, la plupart des facs ont expliqué qu'elles n'avaient pas les moyens de mettre en place ce cursus de remise à niveau et que donc ce « oui, si », ça devient un « non » dans les faits. Et ça, c'est une grosse nouveauté parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de filières non sélectives puisque même les filières non sélectives ont la possibilité de refuser les élèves et de dire qu'ils n'ont rien à faire. Alors, l'élève a grosso modo une semaine pour répondre sur les vœux. Dans le meilleur des cas, il va dire oui parce que la formation l'intéresse. Il peut y avoir une formation qu'il a appris, mais ce n'est pas terrible, terrible. Donc, il peut dire oui, mais demander à ce que son vœu soit maintenu en attente sur certains vœux. Mais ça va être à lui de préciser les vœux qu'il veut garder. Je ne suis pas certain que tous les élèves soient conscients de ce fait. Et puis il peut dire non. Dans ce cas-là, il est rayé et il y a quelqu'un qui monte dans la liste. Ou alors, il oublie de répondre. Et dans ce cas-là, ça signifie non. C'est-à-dire que si au bout d'une période donnée, il ne répond pas, le vœu est annulé. Alors, cette période, elle est d'une semaine entre du 22 mai au 25 juin. À partir du 25 juin jusqu'au 21 août, elle tombe à 3 jours.
Et à partir, on parle du délai de réponse. Hein.
Du délai de réponse. Ouais. Et à partir du 21 août, elle tombe à 1 jour. Donc l'élève a 1 jour pour répondre sur son vœu. Il faut être conscient que la non-hiérarchisation des vœux va créer des listes d'attente qu'on connaissait pas trop dans APB. On connaissait, mais pas à ce point-là. Parce que là, un bon élève, il va avoir 10 oui. Mais il bloque 10 formations sur la suite du parcours. Alors que jusqu'à présent, un élève...
Et s'il met une semaine, vraiment, oui, presque jusqu'au bout, à répondre, et il y a 10...
Voilà. Ce qui veut dire que pour un bon élève...
Les listes d'attente, ouais.
Pour un bon élève, ça ne va pas changer grand-chose. Pour un élève moyen... Ça va être un peu angoissant parce que, à mon avis, il y aura beaucoup de difficultés pour qu'il ait une réponse positive avant mi-juillet, fin juillet.
Ouais, recevant les propositions de manière échelonnée en plus, super vite. Alors on pourrait recevoir trois jours après une autre formation qu'on aurait préférée, mais comme on s'est dépêché.
Alors il y a la possibilité, mais faut bien savoir le fonctionnement de Parcoursup et bien dire attention. J'accepte cette formation, mais vous me gardez sur les listes pour telle et telle formation.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Ce que les élèves ne savent pas forcément.
Ce qui était automatique avant, quoi. Mmh. Donc là, c'est pas la même chose.
Alors, ça ressemble quand même très étrangement au fonctionnement de Pôle emploi à l'heure actuelle. Hein. On ne peut pas refuser l'offre qui nous est proposée, on doit répondre très rapidement, on va là où on nous demande d'aller, on ne choisit pas sa filière, enfin il y a quelque chose de très particulier et donc là pris au moment où on est dans sa formation d'adulte, quoi, son avenir.
Ah, c'est là, les enjeux vont être... Les palpitants vont battre très fort cet été, je pense, pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a... Là, il va falloir répondre vite, il va falloir se projeter dans l'avenir très rapidement. Parce qu'on dit une semaine, mais une semaine, c'est jusqu'à fin juin. En sachant que... apparemment, le ministère a dit que de toute façon, tout serait bloqué pendant la période de bac pour ne pas traumatiser les élèves. Ça veut dire que la semaine de réponse, ça va durer sur 15 jours, quoi, c'est tout, quoi. Après, ça sera 3 jours pour répondre. Donc, ça va être, et avec l'obligation pour les jeunes de rester en permanence connectés pour pouvoir avoir la réponse et pouvoir répondre immédiatement.
Quoi. Ouais, ouais. C'est le même truc, hein. C'est dingue. Je trouve un gamin qui est personnellement.
Bon, alors, on va pas citer le Diwa, mais parce qu'on est bien connecté à Internet. Mais il y a des zones où la connexion à Internet est beaucoup plus difficile. Et ben, il va falloir qu'il fasse quelques kilomètres tous les jours pour aller voir où j'en suis, etc. Donc,
en tout cas, ils seront bien préparés à la suite.
Ah ouais, totalement. Bon. Alors, pour finir également sur ce Parcoursup, parce que. C'est pas la fin, parce que la fin, c'est septembre. Alors, septembre, il va y avoir des gens qui vont rester sur le carreau. Et là, le recteur est tenu de trouver une formation à l'élève dans la mesure des possibilités et dans la mesure des choix de l'élève. À quelque chose près.
Sur son rectorat ou il peut l'envoyer n'importe où.
Si, c'est sur la région académique. Alors, il faut savoir que la région académique, pour nous, c'est Clermont, Lyon, Grenoble. Donc, un élève de 10 peut très bien se trouver une place à côté de Clermont-Ferrand, sans problème. D'où également le fait que pour les filières non sélectives, c'est quasiment impossible à un élève de postuler hors académie. Parce que les recteurs ne vont pas avoir d'un bon oeil arriver des élèves d'une autre académie dont il va falloir gérer la poursuite d'études à partir du mois de septembre. Pour être honnête, il y a un autre dispositif qui est prévu, c'est qu'à partir de juin, de fin juin, début juillet, dans Parcoursup, il y aura une nouvelle plateforme qui va apparaître dans laquelle seront recensées toutes les filières qui sont déficitaires et en donnant possibilité aux élèves d'aller postuler parce qu'ils sentiront que ça sent le roussi, d'aller postuler sur les filières déficitaires pour pouvoir quand même rattraper le truc. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y aura pas plus de places. Donc on va se retrouver quand même au mois de septembre avec des laissés pour compte au niveau du choix. Sauf qu'on va sans doute se retrouver avec moins d'élèves parce qu'il y en a qui n'auront pas répondu à temps. Donc ils ont eu un oui, mais c'est eux qui l'ont refusé. C'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à répondre. C'est pas de la faute du système. Et puis, il y en a qui, à partir de début août, disent c'est fini, j'abandonne. Quoi. Alors, quand même, pour finir sur ce calendrier et les affectations par le recteur, il faut savoir qu'une des réponses qui est envisagée, on ne sait pas si ça va être définitivement acquis, mais pour le moment, c'est dans les cartons, c'est de proposer aux élèves une année de césure. Qu'est-ce ? Alors, une année de césure, ça veut dire que vous êtes inscrit en fac, mais que vous n'avez pas le droit de participer aux cours, que vous n'avez pas le droit de participer aux examens. Donc, vous avez un statut d'étudiant, mais vous êtes chez vous, quoi, point à la ligne.
Et on vous prend l'année d'après ?
Normalement, oui, mais là-dessus, ce n'est pas très, très, très précis. Mais sans
on peut faire plusieurs années de césure d'affilée. C'est génial.
Non, je pense qu'il n'y aura qu'une année de césure, parce que pendant cette année de césure, on peut vous demander d'aller faire l'ambassadeur de la fac auprès des lycées pour expliquer, alors que vous n'avez pas été retenu, comment on fait pour rentrer dans la formation. Donc c'est une des pistes qui est prévue.
Fier d'être une mascotte, hein. C'est un peu au moins ça, quoi. Hein. C'est mérité.
Donc voilà un peu Parcoursup. Alors, Au niveau du SNES, il y a des analyses qui sont assez détaillées là-dessus. Je ne pense pas qu'on noircisse trop le tableau, parce qu'en fait, le but de l'opération, c'est comment expliquer qu'il manque tant de place dans le supérieur. Et je pense que c'est vrai qu'un jeune qui est un peu moyen, qui est un peu limite par rapport au système scolaire et qui n'a pas les parents derrière lui, il va se retrouver sur la touche assez rapidement. Et ça tombe bien, c'est ces jeunes-là qu'on veut éliminer du système scolaire. Donc très bien, pas de problème.
Ça fait déjà des années qu'on se les coltine, depuis le collège parfois.
Voilà.
Ouais, c'est ça. il nous reste assez peu de temps, Christian. Christian Lesseau avec nous du syndicat SNES. On parle de l'enseignement et supérieur et avant bac. C'est le moment de parler un petit peu de cette réforme de lycée plus rapidement que ce détail sur l'université, malheureusement pour nous. Mais...
Alors, sur la réforme elle-même, on va retrouver des axes de la réforme Châtel, c'est-à-dire renforcement de l'autonomie. Là, c'est plus simplement les horaires qui vont être touchés, mais également les disciplines qui vont être proposées par les établissements. Le contrôle continu, qui est élargi à plusieurs matières et qui va compter pour 40% dans la note du bac. Et puis, la suppression des séries, puisqu'on ne parle même plus de filière technique, là, maintenant. Il n'y a plus qu'une filière générale et les filières pro de l'autre côté.
Donc chômage à partir de septembre pour vous ?
Non, parce que ça rentre en compte qu'à partir de... on va toucher. Mais c'est une des conséquences qu'il va y avoir. Ouais. Je reviendrai sur les généralités. C'est vrai qu'il va y avoir une suppression de postes énorme au niveau de... en particulier de l'enseignement technique. La suppression des séries, donc, en général. Et puis, quelque chose qui est nouveau par rapport à la réforme Châtel, c'est vraiment l'adaptation du lycée à Parcoursup. C'est-à-dire que le bac devient quasiment accessoire, ce qui est le but du second cycle. Maintenant, ça va être pour l'élève de se créer un portefeuille de compétences, c'est dit tel que dans le rapport Mathiot, voilà. De façon à pouvoir se vendre le mieux possible auprès des filières du supérieur.
Oui.
Donc, c'est un des enjeux importants de cette réforme. Comment ça se traduit ? Il y a des grandes généralités. Maintenant, tout le second cycle est un seul morceau, alors que jusqu'à présent, il y avait seconde un peu indifférenciée après les filières. Là, on va avoir une seule entité, seconde terminale. Grande nouveauté également, l'organisation de la scolarité en semestre, qui sont très marquées. Et puis, structuration de chaque semestre autour de trois unités. Une unité 1 qui est le tronc commun, une unité 2 qui est approfondissement et complément, et une unité 3 qui est l'accompagnement personnalisé. Alors, la seconde garde un aspect un peu spécial parce que c'est une classe d'accueil et de stimulation. Avec un premier semestre qui est entièrement tronc commun, 25 heures autour de 9 matières. Là-dedans, une nouveauté dans les 9 matières, il y a anglais d'un côté et langue vivante de l'autre. Donc l'anglais devient une matière séparée des langues vivantes. Et puis, ça c'est sans doute un dada de Mathiot, il y a une nouvelle matière qui s'appelle « Enjeux du monde contemporain ». Mathiot est président de Sciences Po.
Ça, Lille. C'est...
Ouais. Donc, là-dessus, on va voir.
Scabreux, moi je le glisse quand même, au passage.
L'unité 2, qui est l'option, elle reste simplement pour les options lourdes. Exemple, art du cirque, filière spécialisée sport, etc., etc. Mais autrement, il n'y a rien pour le moment. Et puis l'unité 3, accompagnement personnalisé, c'est 2 heures. Ça c'est pour le premier semestre. Le deuxième semestre, l'unité 1 tombe à 19 heures. Donc disparaissent les sciences et SES. Et le jeune doit, dans l'unité 2, choisir 2 majeurs et 2 mineurs. Les 2 majeurs doivent être choisis sur SES, physique-chimie, SVT, techno et littérature. Donc il doit choisir un panel de 2 majeurs et il doit choisir 2 mineurs. Il y en a une qui est à choisir dans les majeurs qui n'ont pas été retenus et une qui est découverte, ce qui est proposé par le lycée. Et accompagnement personnalisé, ça reste à 2 heures. L'unité de spécialisation, c'est 7 heures. Sur le cycle terminal, donc première terminale, qui est vraiment un cycle de 4 semestres, c'est comme ça qu'il est défini, on se retrouve avec un tronc commun qui est de 15 heures en première et de 12 heures en terminale, avec anglais, langue vivante, EPS, histoire géo, français et maths info en première, philo et culture scientifique en terminale. Et l'unité 2, qui prend de plus en plus d'importance, puisqu'elle va être de 12 heures en première et de 15 heures en terminale, qui se constitue d'une majeure, mais une majeure constituée de deux disciplines, et puis deux mineurs, qui sont à choisir, qui peuvent être des mineurs de renforcement des majeurs, ou au contraire des mineurs de découverte, c'est au choix de l'élève. Et l'unité 3, accompagnement personnalisé, 3 heures.
Pardon, mais là, du coup, on multiplie le nombre de classes là. Comment ça va se passer? Enfin, je veux dire.
Ah, les chefs.
C'est un gros bordel, ça, là.
Les chefs d'établissement.
Au niveau des matières, là.
Les chefs d'établissement ont des sueurs froides en ce moment parce qu'ils vont se demander comment ils vont faire pour gérer cet ensemble. Alors, ce qui est à noter, c'est que pour les mineurs, un élève peut changer de mineur tous les semestres. Et il peut changer de majeur en fin de première si. Il a suivi la majeure en tant que mineur en première, ah ouais, et voilà, s'il y a des trucs d'adaptation. Putain. Là,
c'est extrêmement tortueux, je trouve.
Oui, mais bon, à mon avis, ça va se décompter assez rapidement, ouais. Hélas. Conséquence pour le bac, parce qu'on en est là, maintien des épreuves nationales. Une épreuve de français en fin de première, une épreuve de philo en fin de terminale, 10% de la note chacune. Deux épreuves sur les disciplines de la majeure, 25% de la note, et un grand oral. Alors un grand oral qui va être basé sur un dossier que l'élève construira à partir de la première. Le sujet sera validé en terminale. Si possible interdisciplinaire, obligatoirement appuyé sur une des deux disciplines de la majeure, et si possible avec une partie en langue étrangère. Et ça va être 20 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien avec le jury. Voilà, on en est. Et donc, le contrôle continue.
Fini pour les 40% qui restent.
Voilà. Voilà la nouvelle philosophie du lycée, telle qu'on la connaîtra à partir, seconde l'année prochaine. Mais le but, c'est que bac 2021 soit celui-là.
Bon, Christian, est-ce qu'on peut décrire rapidement, vraiment, parce que là, on arrive sur la fin de cette émission, quelques conséquences de ces deux réformes. On parlait, par exemple, de la suppression concrète d'un certain nombre de filières et donc de la mise au placard d'un certain nombre d'enseignants. Ça, c'est une vraie conséquence. Quels sont les objectifs aussi visés, hein? Est-ce qu'on va vers mettre de plus en plus d'élèves au placard aussi, vers une concurrence déloyale entre élèves pour ne sortir que quelques élites? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on voit sur un ensemble de décisions politiques, hein, d'une manière plus générale, avec ce qui se passe en France en ce moment, ou en Europe, ou dans le monde d'une manière générale? Voilà, qu'on prenne un petit peu de hauteur. D'accord. Là maintenant.
Alors déjà, un truc qu'il faudrait souligner, c'est l'urgence avec laquelle ça se fait. Et vraiment, on passe au bulldozer.
Pourquoi cette urgence?
Mais déjà, concrètement, l'urgence, c'est par exemple la loi Vidal. Donc Parcoursup se met en place en toute illégalité. C'est-à-dire que la navette parlementaire n'est pas finie. À l'heure actuelle, le Sénat vient d'adopter le texte il y a une semaine, mais il n'est pas passé en deuxième lecture au niveau de l'Assemblée. En ce qui concerne le rapport Mathiot, on parle de la réforme du bac, mais pour le moment, on n'a aucun élément concret sur la réforme du bac. On a simplement le rapport Mathiot qui sert à éclairer le ministre sur les choix qui vont être faits. Les arbitrages ont lieu demain, donc le 14 février, on va voir les arbitrages. Le rapport a été publié le 24 janvier. Les arbitrages, 14 février. On va avoir une consultation de la Commission supérieure des programmes, mais simplement à titre indicatif, avant fin février, pour une publication des décrets, parce qu'on ne va pas passer par une loi. C'est des décrets d'organisation du bac et de la formation qui vont sortir avant fin mars. Une conséquence, par exemple, c'est que les lycées viennent de voter les suppressions et création de postes dans leur lycée, sans savoir quelle va être la structure des classes de seconde l'année prochaine. C'est quand même une urgence totale. Les conséquences, je pense pour les élèves, on aura intérêt à être dans la bonne filière, et puis à bien préparer son dossier. D'ailleurs, il y a quelques officines privées qui commencent à vendre dès maintenant des coachings auprès des jeunes, entre 400 et 1000 euros, pour bien préparer le jeune à Parcoursup. Hein, donc, c'est... Et ça veut dire
on connaissait déjà les classes préparatoires, par exemple, c'était aussi une certaine forme déjà de financiarisation de son niveau.
Mais là ça, oui, enfin, là, c'est sur des points très, très précis. Mais là, ça va toucher l'ensemble du lycée. Et ceux qui vont être laissés pour compte, c'est ceux qui n'auront pas l'accompagnement, c'est évident. Hein, c'est eux qui ont moins de chances de rentrer dans le moule et de pouvoir y aller. Alors, les conséquences aussi pour les enseignants et pour le fonctionnement des lycées, c'est semestre par semestre, ce qui fait que les emplois du temps vont changer semestre par semestre. Ça veut dire que les matières vont être en concurrence les unes par rapport aux autres pour bien mettre en avant sa mineure, qu'elle soit bien prise par les élèves.
On peut voir sauter tout un tas de matières dites mineures, justement. Les langues vont prendre, je pense, une bonne claque. Ça paraît déjà évident. Quand les lycées ne proposent pas des langues un peu particulières, elles ne sont jamais choisies.
Il y a des matières qui ont très peur. On va vous dire. Alors, moi, qui me touche à cœur, c'est la techno.
Ouais, la techno,
simplement, cette réforme, en alignant l'enseignement technique sur l'enseignement général, ça fait économiser au niveau heure prof, ça fait économiser entre 12 et 15 heures par section. Mm-hmm. Ce qui veut dire, par exemple, dans mon lycée, on a 5 sections techniques, ça veut dire que dans les 3 ans qui viennent, on va perdre mécaniquement une centaine d'heures, 120, 130 heures. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent de 5, 6 postes qui vont être supprimés et tout. Ouais. Les collègues de sciences physiques, de sciences nat ont un peu peur parce qu'ils vont rester majeurs, mais ils disparaissent du tronc commun. Donc ça veut dire que là, c'est pareil, ça va être des heures en plus. Alors les langues vivantes, il y a des simulations d'horaires qui ont circulé. On ne sait pas d'où elles sortent, on ne sait pas. Mais apparemment, pour les langues vivantes, première terminale, 1 heure. 3 heures pour l'anglais, 1 heure pour les langues vivantes. C'est-à-dire que là, ça va être une chute énorme des fonctionnements. Et puis, bon, c'est vrai que là, on va aller vers la mise en concurrence des établissements les uns par rapport aux autres. C'est évident. Je pense qu'autour, par exemple, du fonctionnement du tronc commun et des mineurs, on va avoir des établissements d'élite qui vont jouer la pression pour mettre des barres très hautes de façon à garder les bons élèves. Et puis, les établissements plus moyens, bah, au contraire, hein, le conseil du chef d'établissement, ça va être mollo. Hein, donnez des bonnes notes, parce que sinon, vous disparaissez. L'année prochaine, vous n'êtes plus là. Et puis, dernière chose, on voit réapparaître quelque chose qui existait déjà, mais qui prend une importance, c'est le bassin d'établissement. Parce que c'est évident que... un lycée ne pourra pas proposer toutes les formations, toutes les majeures. Et donc, on va avoir une interaction entre différents établissements pour qu'il y aura sûrement des pressions pour que tel établissement propose telle formation et puis qu'il s'arrange avec un autre établissement qui proposera les autres formations. Et après, les élèves ils vont se dispatcher en fonction de ça.
Tentez donc sur le territoire d'avoir presque toute l'offre quand même.
Et ça serait mieux.
À une certaine échelle, voilà. Bon.
Mais je pense aussi que l'un des... Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura la pression des parents, il y aura la pression du supérieur et tout. Et on va très rapidement voir une hiérarchie des majeurs qui va s'établir, des majeurs qui vont redevenir des majeurs dévalorisés et puis des majeurs qui vont, prendre le dessus. Avec en plus le fait que, là, ce n'est pas tranché non plus, on le saura demain, il est possible pour des établissements de proposer des majeurs complémentaires hors des majeures nationales. Ça ne va pas se faire tout de suite, à mon avis, et ça pose des problèmes parce que les majeures sont évaluées sur des examens nationaux. Donc il va falloir lier l'établissement d'une formation majeure dans l'établissement avec en même temps une validation nationale. Ça va être un peu compliqué, mais je pense que les établissements de prestige vont pouvoir se mettre en commun et proposer une formation ad hoc.
On va voir sortir des nouvelles compétences.
Entre autres,
le ski, par exemple.
N'importe quoi. Le ski de boss.
C'est pas une impossibilité.
Spécialité ski de boss.
Merci Christian, on va s'arrêter là. Une émission très dense. On a parlé donc de cette réforme du lycée, du bac, de cette réforme de l'université, Parcoursup. Tout un tas de choses que vous pouvez aller chercher, auditrices, auditeurs, sur Internet, par exemple, et dans différents médias. Auprès du SNES, il y a un site Internet, je pense,
oui.
Avec tout ce qu'on peut trouver sur l'action de ce syndicat. On peut se revoir quand vous voulez, hein, pour approfondir ça, aller un petit peu plus loin ou peut-être même sentir ce qui se passe réellement après ce mois de mars, fameux mois de mars, ce mois de mai, et puis à la rentrée prochaine. Merci Christian.
Merci à vous.
Interview. Ok, the bird. L'interview du jour.